Dégooglisons Internet avec Pierre-Yves Gosset.
Eh bien, commençons. Je vais faire un rappel, un petit rappel pour commencer sur ce qu'est le libre et ce qu'est le logiciel libre. C'est pas une conf technique, hein, je vous rassure, ne partez pas en courant. Mais comme je vais beaucoup utiliser le mot libre, je voulais m'assurer auparavant que c'était clair dans la tête de tout le monde. Le libre, c'est à la fois un mouvement technique et un mouvement social, on pourrait presque dire un mouvement politique, qui attribue finalement... Quand on parle de logiciel libre, c'est pas le logiciel qui est libre, c'est vous, en tant qu'utilisateur ou utilisatrice, qui l'êtes. Et le libre correspond en fait à ces quatre libertés. Donc la liberté d'utiliser, la liberté d'étudier, la liberté de partager le logiciel et la liberté de modifier le logiciel. Et comme ça, ça parle pas toujours tout le temps aux gens. L'analogie qu'on prend souvent, c'est celle de la recette de cuisine et du plat cuisiné. Lorsque vous téléchargez un logiciel libre, c'est comme si vous achetiez ou téléchargiez un plat cuisiné, donc par exemple une recette ici de tarte aux fraises. C'est super, vous avez téléchargé votre tarte aux fraises, vous pouvez l'utiliser, c'est-à-dire la manger. Mais la particularité, c'est que vous pouvez étudier la recette de cette tarte aux fraises pour voir comment est-ce qu'elle a été faite, avec quel type de farine, quelle quantité de beurre, quelle quantité de fraises, etc. Vous pouvez partager la recette de la tarte aux fraises auprès de vos amis, vous pouvez la publier sur Internet sans difficulté. Et aussi, vous pouvez modifier la recette de la tarte aux fraises pour en faire une tarte aux myrtilles ou une tarte autre. On voit bien que dans le milieu de ce que nous, on appelle le logiciel propriétaire ou le logiciel privateur, en opposition évidemment au terme logiciel libre, vous pouvez... Lorsque vous téléchargez un logiciel, par exemple Photoshop, vous pouvez l'utiliser, mais vous n'avez pas le droit d'étudier la recette de cuisine de Photoshop, vous n'avez pas le droit de partager Photoshop, c'est même carrément illégal, et vous pouvez en plus pas modifier Photoshop. Par exemple, si vous voulez traduire Photoshop en breton ou en alsacien, vous ne pouvez pas le faire. Avec un logiciel libre, toutes ces libertés finalement vous sont attribuées et vous avez donc, grâce à la recette de cuisine du logiciel, ce qu'on appelle le code source du logiciel, c'est-à-dire les lignes de code que nous, informaticiennes et informaticiens, on va saisir pour faire la recette de tarte aux fraises, et qui peut du coup aboutir à un logiciel comme Firefox, comme VLC, comme Linux, comme LibreOffice. Vous allez pouvoir en plus étudier ce code, partager ce code, modifier ce code. Vous allez me dire, mais je ne suis pas informaticienne ou informaticien, donc moi ça ne m'intéresse pas vraiment comme type de liberté. Et la réalité, c'est que si en fait c'est important pour des questions, on va dire presque démocratiques, politiques, derrière, c'est un petit peu comme l'autre exemple que je prends souvent, c'est celui des comptes de la nation. Tout le monde n'est pas comptable, j'imagine, dans la salle. Pourtant, vous savez que l'État doit publier, les collectivités doivent publier leurs comptes de façon à ce que tous les citoyens puissent mettre leur nez dedans et vérifier. Mais avec le logiciel libre, c'est un petit peu la même chose. Même si vous n'êtes pas comptable, vous avez au moins cette possibilité-là. Et le fait qu'on vous la retire, vous retire une liberté. Est-ce qu'on est à peu près au clair, du coup, sur ce qu'est un logiciel libre ? Je pourrais revenir dessus si jamais vous avez des questions, mais c'est vraiment pas le sujet de la conf d'aujourd'hui. Donc, au commencement, était Internet. Assez rapidement, c'est parti en vrille. Donc là, ce que représente cette image, c'est une toute petite partie du réseau Internet. Et en bas à gauche, en bas à droite, pardon pour vous, vous avez un ensemble d'ordinateurs connectés qui lui-même représente un petit point de ce sous-réseau d'Internet. Donc Internet, c'est une interconnexion. C'est un réseau d'interconnexion de machines. C'est des machines qui sont capables de se parler entre elles. Assez rapidement, les marchands sont arrivés. Alors, je suis désolé, j'ai plein de références geek dans la conf, mais si ça vous parle pas, ça, normalement, ça vous manquera pas. Donc aujourd'hui, voilà, Internet, ça fait un petit peu penser à ça. C'est assez compliqué, du coup, de s'y retrouver. On veut essayer de passer, et puis voilà, on se retrouve coincé entre toute une foultitude de produits. Et on a un peu du mal des fois à trouver son chemin sur Internet entre toutes les offres diverses et variées. Alors vous allez me dire oui, et alors hein, qu'est-ce que ça peut bien faire? Le premier point et la première difficulté à mon sens, c'est la domination technique de des géants d'Internet. Là je vais faire un petit sondage à main levée. Qui parmi vous a une adresse Gmail? Levez la main s'il vous plaît. On voit qu'on est à prix vert, on est à peu près, allez, on va dire peut-être à 40-50%. Je vous cache pas que quand je fais ce sondage-là dans un autre, devant d'autres publics, peut-être plus jeunes, peut-être plus geeks, on atteint facilement les 90%. Qui a un smartphone ? On est à 80-90%. Là aussi, c'est très faible par rapport à d'autres types de sondages que je peux faire. Mais c'est bien, c'est que vous êtes le public qu'il va falloir... j'aurais pas à vous convaincre, mais du coup, j'aurais à vous parler de comment est-ce qu'on change le monde après. Et donc, ce que je voulais démontrer à travers ces sondages-là, c'est que rien que dans nos poches, si vous avez un smartphone, de toute façon, il y a trois marques. Hein, les iPhones d'Apple avec iOS, les Windows Phone de Windows avec Microsoft avec Windows Phone dedans et évidemment les smartphones Android sur une base d'Android qui est fournie par Google essentiellement, qui à la base était 100% libre, qui l'est de moins en moins aujourd'hui. Et donc la domination technique, alors là c'est normal, hein, vous ne pouvez pas lire la carte, c'est normal, mais du coup j'en ai fait un petit zoom, c'est quelqu'un qui a fait une représentation complètement virtuelle des différents continents d'Internet, et donc là ce que j'ai entouré en rouge c'est le continent Google, dans lequel vous allez retrouver YouTube, Google Images, Google AdSense, Google Doc, etc. Et en fait, dans sa représentation, et c'était à mon sens assez parlant, vous aviez en gros six continents. Google entouré en rouge, au-dessus Facebook, Amazon du coup au nord-est, Microsoft au centre, Apple, et le sixième c'était le continent du dark web, du porno, etc. Enfin en gros de l'internet un peu mis de côté. Et ce qui est intéressant, donc, c'est qu'on voit assez vite des grands pôles se dégager de tout ça. La domination technique, on la voit aussi avec quelques acteurs qui dominent complètement les aspects numériques de vos vies. Pour ceux qui ont par exemple un smartphone ou qui utilisent massivement Internet, sur YouTube, je vais aller rapidement parce que je pense qu'en plus c'est à peu près lisible, mais sur YouTube par exemple il y a 400 heures de vidéos qui sont ajoutées chaque minute sur YouTube, il y a 2 millions de photos qui sont rajoutées chaque minute sur Instagram. Voilà, il y a 87 000 films qui sont lancés, qui sont lus en même temps sur Netflix chaque minute et qui sont relancés à chaque fois, etc. Et donc ce que ce graphique-là montre, c'est que chaque minute sur Internet, nous avons globalement une production numérique qui est gigantesque. Je prends l'exemple uniquement de Facebook. Facebook, c'est environ 2,5 milliards de comptes. Évidemment, sur ces 2,5 milliards, il y a pas mal de fake, il y a pas mal de comptes qui sont faux. Et voilà. Par contre, ce qu'on sait et ce qui est parlant comme chiffre, c'est qu'il y a 1,3 milliard de personnes qui se connectent chaque jour sur Facebook, qui postent 734 millions de commentaires, 422 millions de statuts et 200 millions de photos chaque jour sont postées sur Facebook. Ce qui pour moi en tant qu'informaticien est assez flippant, parce que c'est pas tant la quantité de données évidemment fait peur, mais c'est qu'ils arrivent à traiter ces données là quand je dis qu'ils arrivent à les traiter, c'est que sur les 200 millions de photos qui sont mises en ligne tous les jours sur Facebook, sur ces 200 millions de photos, ils sont capables de faire de la reconnaissance faciale quasiment en temps réel sur ces 200 millions de photos. Ce qui est assez, là du coup, quand on connaît un petit peu la technique, on se dit oui, c'est pas une start-up, hein, Facebook, hein, soyons d'accord. Et puis, toujours dans leur domination technique, ils ne s'arrêtent pas à Internet. Vous voyez que Google, Apple, Amazon investissent massivement dans la voiture autonome ou les camions autonomes. Les montres connectées, vous en trouvez chez Microsoft, vous en trouvez chez Apple, vous en trouvez chez Google. Des téléphones, évidemment, des ordinateurs, évidemment, des caméras, par exemple, vous le savez peut-être pas, mais Google est un des leaders mondiaux de la caméra de surveillance connectée à Internet à travers une filiale qui s'appelle Nest. Et puis, voilà, dans la musique, aujourd'hui, les principaux diffuseurs de musique, alors il y a encore Spotify qui est à part, mais en France, Deezer qui appartient largement à Orange, il me semble, mais autrement, c'est iTunes et on va dire Google à travers YouTube et à travers Google Play, qui sont en train petit à petit de grignoter le marché de la diffusion musicale. Voilà, donc ce que je voulais vous montrer là, c'était comment est-ce que ces entreprises aujourd'hui exercent une domination technique qui fait qu'on les trouve sur à peu près tous les secteurs, et je reviendrai tout à l'heure sur les secteurs de la santé et d'autres. Donc, pour ceux qui seraient encore un peu sceptiques, parler d'une deuxième forme de domination de Google, Apple et compagnie, c'est leur domination économique. Donc voilà le chiffre en 2016, ça a un petit peu bougé depuis, mais ça a bougé plutôt dans le sens de ce que je vous dis. Ce qui est assez intéressant, donc, c'est qu'en 15 ans, alors je vous rappelle qu'en 2001, Facebook n'existait pas. Facebook est né en 2004, je crois. C'est réellement déployé à partir de 2006. Voilà, donc ça, Facebook n'existait juste pas au tout début de ce graphique. Donc on était sur... Donc là, c'est les 5 plus grosses capitalisations boursières mondiales en 2001, 2006, 2011 et 2016. En 2001, il y avait uniquement Microsoft parmi les géants du numérique. Et autrement, vous voyez, vous aviez Exxon, donc en gros du pétrolier... de Walmart, qui est l'équivalent du Carrefour américain, on est sur des gens qui vendent des choses, et notamment des choses qui peuvent se vendre cher, typiquement du pétrole, de la nourriture, des voitures ou du matériel électrique pour General Electric, qui était la plus grosse capitalisation boursière à l'époque, etc. Et puis, j'allais dire petit à petit, mais ce petit à petit, il est quand même arrivé très rapidement, puisqu'en 2011, Microsoft avait été éjecté et entre guillemets remplacé par Apple, qui avait eu la bonne idée de sortir les iPhones et qui donc s'est fait des comptes en banque en or assez rapidement. Et par contre, entre 2011 et 2016, boum, qu'est-ce qui se passe ? On se retrouve avec les 5 plus grosses capitalisations boursières mondiales sont Apple, Alphabet. Alphabet, c'est le nom de la maison mère de Google. Hein. Google, en fait, ça ne s'appelle pas Google. Google n'est qu'une division d'une compagnie beaucoup plus grande qui s'appelle Alphabet, qui fait plein de choses assez bizarres, mais on pourra en discuter. Il y a Microsoft en 3e, Amazon en 4e et Facebook en 5e. Depuis, et je peux vous dire en 2018, Facebook est maintenant 6e. Le 5e s'appelle Tencent. Et c'est le plus gros fabricant de téléphones chinois. Et donc, c'est quand on parle des GAFAM, donc Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, on parle aussi souvent des Natu et des BATX, donc Baidu, Tencent, etc. Et les Natu, c'est Netflix, Airbnb, Tesla et Uber. Donc, en gros, les géants du numérique aujourd'hui sont en train de prendre une domination économique et... Très honnêtement, il n'y a pas grand monde qui avait vu ça venir. On vous aurait dit, il y a 15 ans, c'est des entreprises du numérique qui vont dominer économiquement le monde. Je pense que vous l'auriez pas cru. Enfin, moi, en tout cas, je ne l'aurais pas cru, alors que c'était un petit peu mon métier. Donc là, j'ai repris quelques chiffres qui datent de 2015, mais qui sont toujours, pour moi, intéressants. Alors, en fait, ce qui m'intéressait vraiment de vous montrer, c'était la colonne qui est à l'extrême droite, qui s'appelle capitaux propres et valorisation. Capitaux propres, en gros, c'est ce qu'ils ont comme trésorerie sur leur compte en banque. Et aujourd'hui, donc les chiffres datent de 2015, mais c'est plus élevé encore aujourd'hui, Google avait 120 milliards de dollars sur son compte en banque. 120 milliards de dollars, j'ai mis des chiffres en bas, c'est par exemple le PIB du Maroc. Et ça, ils l'ont sur le compte en banque, c'est pas ce qu'ils produisent, hein, on est bien d'accord. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que ça veut dire qu'elles sont aujourd'hui, je m'attarde pas là-dessus, elles sont aujourd'hui capables de racheter à peu près n'importe quelle boîte sur la planète, en dehors des autres GAFAM. Et c'est assez intéressant parce qu'on va vous dire, oui, mais Google innove beaucoup, Facebook est une entreprise d'innovation, etc. Oui, les places sont libres encore là devant. Donc il y a encore beaucoup de gens qui pensent que ces entreprises innovent, et c'est à la fois c'est vrai, mais elles innovent en rachetant d'autres entreprises. Et donc j'en discutais ce matin avec un chauffeur de taxi qui me disait mais Uber finalement ça appartient à qui? Ça appartient largement à Google, qui a été un des premiers gros investisseurs dans Uber. Aujourd'hui a été largement racheté par des Qataris, mais du coup il faut savoir que Google a aujourd'hui encore beaucoup de participation, beaucoup d'actions Uber. Ce qui est intéressant aussi quand on discute avec des enfants, c'est qu'ils disent non, mais moi j'utilise pas Facebook, j'utilise WhatsApp. perdu. C'est Facebook et WhatsApp, même entreprise. Ah ouais, non, d'accord, mais moi j'utilise pas WhatsApp, j'utilise Instagram. Ben Instagram, c'est Facebook aussi à 100%. Et donc, ce qui est intéressant, à l'extrême droite, je vous avais mis la page Wikipédia qui liste les acquisitions de Google. Il y en a 180 avec des entreprises dont vous n'avez jamais entendu parler et qui sont en fait des entreprises qui sont rachetées par les GAFAM et pour lesquelles ça n'est que des petits achats. Typiquement, LinkedIn, est-ce qu'il y a des gens qui ne voient pas ce qu'est LinkedIn dans la salle ? C'est bon ? Oui, j'ai entendu un oui. LinkedIn, c'est un réseau social pour les professionnels. En gros, c'est le Facebook où tu laisses ton CV et que les autres vont se transmettre et puis tu vas pouvoir commenter, tu vas dire oui, Pierre-Yves, effectivement, il sait utiliser Internet et puis il a travaillé avec moi pendant 2 années, c'était super, il était super sympa. Voilà, par exemple. Je caricature, mais du coup, il y a énormément de monde sur LinkedIn et LinkedIn a été racheté en 2017, si je ne dis pas de bêtises, par Facebook pour 26 milliards 200 millions d'euros. En 26 milliards 200 millions de dollars. Le tout essentiellement par échange d'actions. Donc Microsoft n'a même pas eu à sortir réellement des dollars de son compte en banque. Ils ont juste fait de l'échange d'actions. Et donc ça permet aujourd'hui à Microsoft d'avoir acheté une entreprise qu'il trouvait intéressante. Et il a dit ok, moi je mets 26 milliards sur la table. 26 milliards de dollars. Encore une fois, pour racheter une entreprise qui a des salariés, hein, évidemment, mais honnêtement, LinkedIn, c'est pas beaucoup, beaucoup de salariés. Et je pourrais revenir, hop là, juste sur cette slide-là, pour dire que les 500 000 employés, si on prend l'ensemble des employés des GAFAM, on arrive en gros à 500 000. 500 000 employés, c'est même pas le nombre d'employés qu'il y a chez Walmart, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est encore une fois le carrefour états-unien. Donc ça veut dire avec très peu d'employés, ils génèrent beaucoup de valeur. Cette valeur, ils arrivent très bien à la mettre de côté pour pouvoir racheter d'autres entreprises qui vont elles aussi rapporter de l'argent. Le troisième problème que ça pose selon nous, c'est la domination culturelle. Et ça, la domination culturelle, alors on en parle de plus en plus dans la presse ces derniers temps, mais je voulais prendre quand même 2 minutes pour en discuter avec vous, parce que c'est assez peu abordé sur la façon dont ils gèrent cette envie de dominer culturellement le monde. Donc Facebook a redéfini, qu'on le veuille ou non, hein, je veux dire, même si vous n'avez pas de compte Facebook, moi personnellement j'en ai toujours un mais qui n'est plus utilisé depuis des années, parce que je sais que ça sert pas à grand chose de le fermer, ils gardent les informations, mais ils ont redéfini la façon dont on interroge ce qu'était la définition d'un ami. Alors vous allez me dire, moi j'ai pas de compte Facebook, mes amis je les gère de la même façon qu'avant. Oui, c'est possible, sauf que vos amis, eux, ont peut-être un compte Facebook et du coup ils ont modifié leur façon d'agir avec vous. Typiquement pour moi qui aujourd'hui ne vais plus sur Facebook, j'ai une grosse difficulté, c'est que je ne suis plus invité aux crémaillères, anniversaires, etc. Eh ouais. Alors, heureusement, il y a encore le téléphone, le bouche à oreille, etc. Mais dans mes relations, il y a beaucoup de gens qui se disent je mets le truc sur Facebook et je m'embête plus à faire un SMS, par exemple. Et donc, ça n'est pas parce que moi, je n'ai pas changé la définition de ce qu'était pour moi un ami que ça n'a pas changé pour d'autres personnes et notamment pour mes propres amis. Ce qui fait que ça m'impose un changement dans ce type de relation. Facebook et Google notamment ont aussi influé notre rapport au design. On s'en rend pas forcément compte, enfin ça c'est un truc qui moi m'intéresse intellectuellement, c'est que ils ont défini à quoi devait ressembler une application sur téléphone, à quoi devait ressembler un service en ligne sur Internet, y compris en termes de design. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que aujourd'hui ces entreprises définissent comment est-ce qu'on interagit avec une machine ? Petit à petit, de plus en plus, ça veut dire que si moi je monte une entreprise et je fais une application pour téléphone, j'ai tout intérêt à reprendre le même type de design qu'utilisent les applications de Google ou d'Apple ou de Facebook, parce que les gens sont habitués à ça et que si je leur propose quelque chose de différent, ils vont être perturbés. Et concrètement, ça tue, selon nous, la diversité dans le terme du design. Je ne sais pas si vous êtes vous écrivez de droite à gauche et non pas de gauche à droite. Si vous êtes au Sénégal et que vous estimez que les jeux de couleurs proposés par Google ne vous conviennent pas, ben c'est tant pis. C'est soit vous vous y pliez, soit vous perdez des clients potentiels. Ils vous forcent pas à utiliser leur design. Je veux dire, ils me mettent pas un flingue sur ma tête en me disant tu dois mettre le bouton ici en haut à droite, etc. Sauf que tellement de gens sont habitués que derrière, c'est très très compliqué. Ils redéfinissent aussi notre morale, quelque part, puisque ça avait fait quand même pas mal de bruit sur... là, vous avez évidemment la peinture « L'origine du monde » de Gustave Courbet, hein, qui fait partie quand même des toiles relativement connues depuis maintenant plus d'un siècle. Ce tableau avait été posté sur Facebook, s'était vu censuré, parce que le rapport à la morale que peut avoir Facebook n'est pas le même que celui que nous, Européens ou Français, pouvons avoir. Et ce genre de cas, on en a énormément. Je rappelle que, du coup, ça donne une vision très états-unienne du monde, puisque sur ces 5 entreprises, il y en a 3 qui sont à San Francisco, donc Google, Apple et Facebook, et 2 qui sont à Seattle, là encore, qui se touchent carrément, Amazon et Microsoft, les sièges sont à Seattle. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces deux villes ont forcément des cultures, des références culturelles, une histoire du coup quelque chose de très white anglo-saxon, protestant, les WASP, peut-être qu'on la prenait à l'école, qui diffuse finalement un modèle culturel, un petit peu comme Hollywood a été un vecteur de diffusion de la culture américaine et des valeurs américaines à partir, on va dire, des années 30, on pourrait prendre avant, etc., mais notamment, surtout dans l'après-guerre, à partir des années 50, avec le modèle genre Ma sorcière bien-aimée ou La petite maison dans la prairie, un mari, une femme, 2 enfants, 2 voitures, le chien, etc. On retrouve typiquement ce genre de choses, mais pour moi vraiment sous stéroïdes, avec une capacité de diffusion où ces entreprises-là, encore une fois, sans nous forcer, modèle petit à petit ce qu'est notre vision culturelle. S'il reste encore des sceptiques, je continue. On aborde un sujet que dans notre association on creuse depuis maintenant quelques temps, qui a été défini et déterminé par une économiste allemande qui s'appelle Shoshana Zuboff, et qui a appelé ça le capitalisme de surveillance. Alors qu'est-ce que le capitalisme de surveillance ? C'est que d'abord on va se servir de la pub comme d'un levier, donc ça c'est pas nouveau, hein, ça fait quelques années que ça dure, mais on va essayer d'utiliser la publicité pour gagner de l'argent, et du coup le fait d'être présent sur internet et d'être les plus grosses, notamment je pense à Google, Apple, Facebook, les plus grosses plateformes mondiales présentes sur internet, nous permet de vendre de la publicité. J'ai pris un exemple là sur le site du Parisien. Le site du Parisien, donc ça, j'ai fait la capture d'écran, donc ça c'était la page d'accueil du site du Parisien, je ne sais plus à quelle date, mais enfin, je vais essayer de la lire en petite, le 10 octobre 2017. J'ai relevé, donc en utilisant un petit logiciel qui permet de comptabiliser le nombre de traceurs, c'est-à-dire des petits logiciels espions qui vont récupérer ou votre adresse IP ou qui vont être liés à d'autres sites pour savoir d'où vous venez, etc. J'en ai relevé 92, ce qui est quand même relativement hallucinant. Vous voyez bien, ça c'est la page du Parisien, si vous n'avez pas de bloqueur de publicité, vous voyez plus la publicité finalement que le titre. Enfin, on le voit parce qu'il est marqué en gros, mais c'est quand même difficile d'échapper à cette publicité. Donc le modèle économique, c'est que nos données font leur profit. C'est un schéma très très caricatural, mais en gros les utilisateurs, c'est-à-dire nous, on génère des données de différentes façons. Ça peut être en laissant des commentaires, ça peut être en naviguant sur des sites. Toutes ces données évidemment génèrent un certain trafic où on va se battre pour avoir la plus grosse visibilité possible pour son site web. Imaginez Facebook et c'est 1,3 milliard de personnes qui se connectent tous les jours. Ce 1,3 milliard de personnes, du coup Facebook arrive à le valoriser valoriser en disant ben, c'est moi le site le plus visité au monde, c'est chez moi que les gens laissent les commentaires, c'est chez moi que vous allez pouvoir voir les vidéos, etc. Et donc ça, évidemment, c'est ce que Facebook vend aux annonceurs. Il leur vend non seulement de l'espace de page web disponible, mais il vend aussi ce qu'on appelle votre graphe sociale, c'est-à-dire la représentation de vos relations avec d'autres personnes. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est-à-dire que une donnée, par exemple, mon âge, j'ai 40 ans, je l'avoue, sans honte, mon âge n'a pas réellement une véritable valeur en tant que telle. C'est, je veux dire, si vous voulez acheter la donnée de mon âge, ça vaudrait pas grand-chose, ça vaudrait quelques centimes d'euros et voilà. Par contre, cet âge, s'il est pris avec le fait que je suis un homme blanc qui habite à Lyon, qui chose du 47, qui ait telle ou telle orientation sexuelle, qui connaisse telle ou telle personne, etc. Ça trace un graphe social et ça, c'est la valeur de ces informations. Elle grandit de plus en plus en fonction du type d'information qu'on va pouvoir qualifier. Et là, par exemple, je peux vous dire qu'il y a quelques semaines, on a appris, enfin il y a quelques jours, c'est tout frais, que Facebook avait déposé un brevet permettant de classer socialement les utilisateurs de son réseau social. Donc il va dire si vous êtes CSP, CSP++, en gros, si vous êtes pauvre ou riche hein, aussi. Et donc c'est à partir de ces données-là qu'ils vont pouvoir générer de l'argent. Et évidemment, des fois la publicité ne leur suffit pas, et ils veulent évidemment gagner de l'argent autrement. Et donc il y a un certain nombre de dérives qu'on voit apparaître, c'est-à-dire que ça n'est pas uniquement la publicité. Alors je vais, parce que j'imagine que là, à moins que vous ayez des très bons yeux, ça va être difficile à lire. Tout ça sont des types de données personnelles qui ont été et qui ont essayé d'être classifiées. Donc vous avez des choses très classiques, votre activité, par exemple, quel navigateur vous utilisez, qu'est-ce que vous avez mangé, qu'est-ce que vous conduisez comme voiture, est-ce que vous avez une voiture, votre parcours académique, donc la formation et les formations que vous avez suivies, les emplois. Donc là, pensez à LinkedIn. Quand Microsoft rachète LinkedIn, vous avez la partie employment du e-portfolio. C'est bon, il sait par où vous êtes passé. Vous avez votre religion, vous avez le nombre de textos que vous avez envoyés, à qui est-ce que vous avez parlé, dans quelle pièce est-ce que vous êtes trouvé, avec quelle autre personne, ce qu'ils sont capables de savoir aujourd'hui à partir de vos téléphones, etc. Et donc, finalement, on rentre dans une espèce de société de la surveillance qui nous pose quand même un certain nombre de problèmes. Donc vous êtes surveillé par votre navigateur, si vous utilisez Chrome, moins déjà si vous utilisez Firefox. Vous êtes surveillé par votre téléphone, par votre montre connectée. C'est pas encore trop le cas en France parce que le groupement interbancaire carte bleue se défend. Mais aux États-Unis, 60% des paiements, par exemple au McDonald's, sont faits par le téléphone. C'est-à-dire le téléphone contient le même type de puce que celle que vous avez dans votre carte bleue pour faire un paiement sans contact. Donc les Américains aujourd'hui payent leur McDo en appliquant finalement leur téléphone sur comme vous appliqueriez votre carte bleue. Bien que je doute qu'il y ait beaucoup de monde dans la salle qui aille au McDo vu qu'on est à prime vert. Demain, on s'adresse au public. Hein. Demain, bien sûr, ça va être les voitures autonomes, les robots. Ils investissent aussi massivement sur des robots. Je vais assez vite là-dessus. L'idée n'est pas du tout de vous faire flipper, mais c'est de dire que concrètement, ces entreprises, elles investissent. Quand je dis qu'elles investissent massivement, c'est elles investissent des milliards hein, de dollars. On ne sait pas de 3 millions par-ci ou 4 millions par-là. Et l'idée, évidemment, c'est de pouvoir faire en sorte que vous ayez des assistants personnels chez vous, notamment pour les personnes les plus âgées qui viendront aider. Vous avez sans doute vu arriver ces dernières années, ou notamment à Noël dernier, de la publicité pour les Google Wi-Fi, les Google Home, donc des dispositifs qu'on place chez vous. Voilà, je vous parlais de Nest, qui est la filiale de Google. Bah, typiquement, ce type de caméra connectée est vendu en fait par Google sous une autre marque. Hein, ça s'appelle pas Google Caméra, ça s'appelle Nest. Et voilà. Et tout ça, finalement, fait qu'on se retrouve chez soi avec des objets du quotidien. Et voilà, vous avez un diffuseur de parfum, un aérosol. Et entre les deux, vous avez ici le Amazon Echo de chez Amazon. Enfin, voilà, avec un assistant personnel qui s'appelle Alexa. Et vous avez le Google Home qui s'est vendu comme des petits pains à Noël, qui est un dispositif qu'on branche chez soi et qui écoute en permanence ce que vous dites. Et vous lui dites OK Google. Et là, normalement, il y a plein de ça se réveille, et puis derrière il va dire, vous allez lui dire bah, joue-moi de la musique de Frank Sinatra, et pouf, il va aller chercher de la musique de Frank Sinatra, il va vous jouer de la musique. Donc tout ce confort est extrêmement pratique, mais aussi extrêmement flippant. Là, j'ai pris qu'un seul exemple de truc un peu flippant qui est arrivé il y a maintenant 2-3 ans. C'était Mattel qui avait demandé à un prestataire de faire une Barbie qui est plus intelligente que quand on appuie le bouton, juste elle répond une phrase au hasard parmi 10 phrases. Ben, en fait, qu'est-ce que ça faisait ? La Barbie écoutait l'enfant. L'enfant disait « Il fait beau aujourd'hui ». Et puis ben, Barbie répondait. Elle allait interroger la base de données mondiale. Donc, elle était connectée en Wi-Fi. Elle allait interroger avec la phrase de l'enfant. La phrase de l'enfant était analysée. L'enfant demande la météo. Elle est située à tel endroit. Ok, on répondait. Oui, tu as raison, il fait beau à Lyon aujourd'hui. Et évidemment, il n'a pas fallu 15 jours pour que ce dispositif se fasse hacker. Et ça montrait assez bien que on est en train de donner des données sans trop se poser de questions. Donc, qu'est-ce qui peut mal se passer ? J'adore cette photo. C'est que tout simplement, demain, il y ait de nouveau et encore des nouveaux produits qui sortent et qu'ils soient tellement bien vendus, ils nous soient présentés comme tellement pratiques et tellement confortables qu'on se jette dessus pour les acheter. Et donc, on va dire, je m'en fous de mes données personnelles, tais-toi, j'achète les Google Glass, alors qu'on n'en a pas voulu il y a 4 ou 5 ans. Elles sont en train de revenir, les Google Glass, donc c'est un petit dispositif vendu par Google qui permet de faire de la reconnaissance faciale. Donc, vous croisez quelqu'un dans la rue, ça vous dit, ah bah tiens, ça c'est Pierre-Yves, tu l'as pas venu, il était pas venu après une VR l'an passé, mais il était venu en 2016, par exemple. Bah ça peut vous l'afficher, voilà, en surimpression sur vos lunettes. Et donc concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Bah, c'est que petit à petit, là c'est totalement illisible, je suis désolé, mais les données de votre activité sont relevées par Chrome, Windows, iOS, Google Apps. Ici vous avez LinkedIn et Google Education sur les parcours professionnels. Vous avez les comptes Google sur les identifiants, Facebook, je vous le déroule. En gros, ils sont juste de partout. Sauf, pour l'instant, il manque encore quelques domaines sur lesquels, en tout cas en France, ils collectent assez peu de données. C'est les données gouvernementales. Attention, ça commence à venir. Google fait des formations aujourd'hui aux universitaires, dans les universités. On peut imaginer que dans quelques temps, ils fassent des formations aux députés ou autres. Pas du tout déconnant. Les données financières, ça a commencé aux États-Unis, c'est pas encore arrivé en France, mais Apple et Google se lancent dans la banque, dans les services bancaires. Et quand ils vont arriver, ils vont défoncer les banques classiques. Et les données de santé. Les données de santé, aujourd'hui, il y a des entreprises, donc dans cette maison mère qui s'appelle Alphabet, qui contient Google, il y a plusieurs sociétés qui travaillent soit sur la génétique. Google est un des plus gros investisseurs dans le domaine de la génétique et de la génomique. Et il y a aussi une société, par exemple, de Google qui s'appelle Calico, pour California Life Company, qui vise à tuer la mort. Ils ont des chouettes ambitions chez Google, qui est une filiale transhumaniste et assumée comme telle de Google. Je pourrais revenir dessus. Je vous passe celle-là parce que l'heure tourne. Il y a aussi, toujours dans ce capitalisme de surveillance, à vouloir faire tellement d'argent et à vouloir faire feu de tout bois de nos données, on a du coup des dérives démocratiques. D'abord, il y a Edward Snowden, donc lanceur d'alerte américain, qui était prestataire pour la NSA, qui est le service de renseignement numérique américain principal, qui s'est donc, enfin, je vous invite à voir le documentaire qui s'appelle Citizen 4, qui a eu l'Oscar du meilleur documentaire il y a 2-3 ans. Donc en juillet 2015, Edward Snowden quitte la NSA avec une clé USB bourrée de documents, et ces documents démontrent qu'il y a bien une collusion entre les États, et notamment les États-Unis, et les GAFAM. Cette collusion, elle se traduit par quoi ? Elle se traduit, alors là aussi, hein, je ne dis pas que Google donne volontiers et avec un grand sourire les données à la NSA, mais ce que démontrait Edward Snowden, c'est que suite aux attentats du 11 septembre 2001, est paru un décret qui s'appelle le Patriot Act, enfin l'équivalent d'un décret américain qui s'appelle le Patriot Act, signé par George Bush Jr. Et ce Patriot Act, il dit que toute entreprise américaine doit donner, sur simple demande et sans prévenir le public, les informations demandées par la NSA à la NSA. Et donc concrètement, quand aujourd'hui la NSA veut mettre quelqu'un sous surveillance, c'est extrêmement simple pour elle d'aller voir Google ou Facebook et de dire voilà, je veux mettre sous surveillance Pierre-Yves Gosset. La concrétisation de ça, c'est quoi ? C'est que finalement, plutôt que d'avoir à surveiller 10 000 ou 100 000 entreprises pour surveiller des milliers de personnes, ce qui serait extrêmement compliqué, elles n'ont quasiment plus qu'à en surveiller 5. Et avec ces 5 entreprises-là, elles peuvent mettre sous surveillance une énorme partie de la population. Puisqu'ils peuvent avoir accès du coup à votre téléphone, à votre compte Google, à vos échanges Gmail, à vos photos Snapchat, que sais-je. Je vous rassure, en France, on a eu la même chose en 2015. On pourra remercier Manuel Valls au passage, puisque la loi s'appelle la loi renseignement. Cette loi renseignement donne au gouvernement la possibilité de forcer les entreprises qui exercent sur son sol de pouvoir communiquer des informations sur simple demande. Il y a normalement un garde-fou qui s'appelle la CNCTR, qui est une commission nationale de vérification qu'il n'y a pas d'abus. Mais cette loi prévoit que le Premier ministre, donc aujourd'hui, j'allais dire Gérard Collomb, non, je me trompe, il est ministre de l'Intérieur, Édouard Philippe, mais on y est quasiment, donc aujourd'hui, si Édouard Philippe veut demander un renseignement et veut tout savoir de vous, il peut le faire sans passer par la CNCTR s'il dit « Non mais moi, je veux passer outre parce que cette personne est un dangereux terroriste ». On l'a vu avec la COP21, cette loi qui était prévue pour prévenir le terrorisme sert évidemment à bien d'autres choses. Toujours dans les dérives démocratiques, je rappelle que Google, Apple, Facebook, etc. payent très 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 peu d'impôts sur le territoire national. Ils utilisent la technique du sandwich néerlandais, hein, donc où on va défiscaliser aux Bermudes, ça passe par l'Irlande, ça revient en France, etc. Et finalement, on paye pas d'impôts ou très très peu. C'est-à-dire que ces entreprises qui font des chiffres d'affaires qui se comptent en milliards de dollars sur la base de nos données, ne reversent pas leur part à l'État français et donc à nous en tant que citoyens. Sur les dérives démocratiques, je vais aller très vite sur les lobbies. Hein, je rappelle que dans les plus gros lobbies, ce graphique était intéressant parce qu'il montre la progression notamment de Google. Donc ça, c'est aux États-Unis uniquement et c'est à la Maison Blanche uniquement, je crois, puisque c'est quand on est lobbyiste et qu'on va investir de l'argent pour payer des cadeaux, pour aider à faire passer un projet de loi, etc. Ces sommes-là sont enregistrées aux États-Unis. Elles doivent l'être en France aussi, mais je ne sais pas trop comment ça se passe, s'il y a des gens d'anticorps là-dedans qui prennent la parole tout à l'heure. Mais du coup, on voit qu'il y a une grosse progression pour faire du lobbying. Donc Microsoft en fait depuis des années, mais on voit que Google, donc c'était 2003, 2008, 2013, Google, entre 2003 et 2013, est passé de quasiment zéro à plus de 15 millions de dollars en lobbying. Facebook est passé de 0 à 6 millions, etc. Et donc évidemment, ça n'est qu'une toute petite partie de leur lobbying. Évidemment, il y en a beaucoup plus derrière. Alors là, ça c'est la fête du slip. Si vous allez aujourd'hui sur le site qui s'appelle Élysée.fr, donc Élysée, qui est le site de l'Élysée, je rappelle que donc le site de la présidence de la République française, vous arrivez sur le site de l'Élysée, la première question, vous ne pouvez pas lire le texte, la première question qu'on vous pose, c'est « Suivez-nous sur Facebook ». Je ne sais pas s'il y a des gens que ça ne choque pas, mais moi personnellement je suis quand même un petit peu choqué. Vous allez sur le site de l'Élysée, le premier truc qu'on vous dit, c'est pas bienvenue citoyen français, bienvenue citoyen étranger qui est intéressé par la présidence de la République française, on va vous expliquer les déplacements d'Emmanuel Macron. Non, c'est suivez-nous sur Facebook comme les 393 000 autres personnes. Et vraiment pour moi ça c'est la fête du slip quoi. Voilà, les institutions publiques aujourd'hui délèguent une partie de leur communication n'hésitent pas à orienter. Enfin, on pourrait très bien avoir une pub McDo, hein, tant qu'à faire. Vous voulez visiter le site de la République française, mais pas de problème, allez d'abord manger un burger et revenez nous voir après. Ce serait exactement la même chose. Dans les dérives démocratiques, allez, je continue rapidement. Ça, c'est une ville, un quartier de Toronto qui va être laissé à Google. De façon, y compris la gestion, hein, c'est-à-dire dans le cadre des smart cities dont on entend beaucoup parler. Justin Trudeau, donc Premier ministre canadien, a dit non, mais pas de souci. Moi, je laisse un quartier de Toronto à Google. Et donc Google va gérer ce quartier. Google n'a pas été élu, hein, je vous cache pas. Mais bon, du coup, ils vont pouvoir faire les investissements tranquille. Autre point, donc comment est-ce qu'on passe, alors, quand je vous parlais de capitalisme de surveillance, finalement c'est quoi le capitalisme de surveillance? C'est ce qu'on appelle en partie déjà l'économie de l'attention. L'économie de l'attention, c'est pour celles et ceux qui ont dans la salle un smartphone, c'est quand vous vous retrouvez le soir à swiper, donc à regarder toutes les vidéos de chats sur internet, et vous passez 20 minutes de votre temps à regarder ça, alors que ça n'a strictement aucun intérêt pour vous, mais juste parce que c'est conçu un petit peu comme les machines à sous. Si vous regardez le coup de d'ici le nombre de, hop là je vais y arriver, le nombre de notifications, etc. Tout ça, c'est fait pour vous dire hey, tu as des nouvelles notifications. Et en gros, tous ces outils là pour que vous restiez sur Facebook ou sur Google, doivent vous notifier qu'il se passe quelque chose, que les gens s'intéressent à vous, que vous vous intéressez aux gens. Hey, il y a 4 ans, tu étais copain avec machin, et tu veux pas lui dire que tu l'aimes ? Ben, c'est exactement ça. Et donc, ils travaillent ce qu'on appelle l'économie de l'attention pour vous faire rester le plus longtemps possible, pour pouvoir valoriser plus leur site, pour pouvoir, derrière, vendre ça plus cher aux annonceurs. Ce qui est un petit peu plus embêtant, c'est qu'on passe de l'économie de l'attention à ce qu'on appelle l'architecture de la persuasion. Alors, s'il y a des gens qui ont fait du marketing, l'architecture de la persuasion, ça existe depuis les années 60. Hein, j'ai oublié le nom de cette série américaine où c'est des publicitaires dans les années 60. Mad Men, merci. Et le principe, c'est de dire, d'abord, on éveille, donc ça s'appelle le principe, ça on apprend ça en marketing en première année, hein, c'est le AIDA, donc awareness, c'est l'attention, puis on suscite l'intérêt. Après, une fois qu'on a suscité l'intérêt, on suscite le désir, et quand il y a le désir, paf, on fait passer le consommateur à l'action, et en gros, il achète. Donc là, typiquement, vous avez un magasin où on vous présente les choses avec une jolie lumière, etc. Donc il faut déjà que vous rentriez dans le magasin, puis on suscite votre intérêt, puis votre désir par le packaging, par des choses comme ça. On fait exactement la même chose à Primevert, hein, je vous rassure, on n'est pas mieux, on le fait différemment, mais on le fait quand même, et pour vous faire passer à l'action et pour que vous achetiez le pot de miel, le t-shirt en chanvre. C'est connu depuis longtemps et c'est pas détestable. La problématique que ça pose au niveau des GAFAM, c'est que là, sur le marché potentiel, le premier, ils ont une base d'utilisateurs qui est mondiale. C'est-à-dire que ça n'est pas comme si c'était un magasin qui va pouvoir, je ne sais pas, le Carrefour du coin, il va pouvoir accueillir peut-être 10 000 personnes jour, j'en sais rien, très honnêtement, mais il ne peut pas en accueillir 2,5 milliards. Facebook, lui, peut accueillir 2,5 milliards de personnes. Et donc, forcément, ce tunnel qui a beau se rétrécir, s'il veut déclencher un maximum d'actes d'achat, il lui suffit d'élargir la base. Et c'est ça qu'ils essayent de faire aujourd'hui. J'en suis à 45 minutes, il ne faudrait pas que je m'endorme. Tout ce qui est fake news, je vais quand même j'allais zapper, mais je vais juste en dire quelques phrases. La problématique des fake news est liée, encore une fois, à la base des utilisateurs. Ce qu'a montré c'est en cours, excusez-moi, donc pour l'instant c'est en cours d'analyse, mais ce qui est soupçonné dans les fake news concernant les Russes qui auraient payé des publicités sur Facebook pour influencer l'élection américaine de Donald Trump, et c'est la chose suivante, il y aurait eu du coup 3000 publicités différentes sur laquelle... Je mets vraiment des guillemets, hein, ça n'a pas été prouvé, mais enfin, à mon avis, ça le sera un jour. Les Russes auraient dépensé 100 000 dollars, c'est-à-dire quand même pas grand-chose, mais ces 100 000 dollars ont permis de diffuser des millions d'affichages de ces 3 000 publicités. Or, ce qu'on a déjà, ce que des études ont montré, alors cette fois-ci des études scientifiques, ont montré, c'est que quand vous avez un message qui s'affiche, vous avez toujours une frange de la population qui est relativement à se balancer entre est-ce que je vote pour Trump ou est-ce que je vote pour Hillary Clinton. Eh ben, c'est ce que ces études montraient, c'est que des messages publicitaires peuvent influer. Ils l'ont pas fait sur Hillary Trump, mais ce qu'ils ont montré, c'est que sur des choses diverses et variées, ils arrivaient à montrer qu'on pouvait identifier, qu'on pouvait influencer des votes ou des actes d'achat par de la publicité. Et donc, lorsque les Russes payent 100 000 dollars pour afficher de la publicité, on peut penser que ça a pu faire pencher un tout petit peu la balance. Et comme l'élection était quand même très serrée, eh ben on peut se demander si jamais les Russes n'avaient pas mis ces 100 000 dollars en publicité, peut-être que l'élection américaine n'aurait pas été ce qu'elle est. Et donc là, ça, vraiment, encore une fois, en dehors du problème scientifique de la fake news, se pose un problème démocratique et de se dire, mais à quel moment est-ce qu'on est en capacité de se dire que ça a merdé. Allez, dernier problème démocratique, c'est ce que j'ai appelé, c'est pas très scientifique, hein, la anonymisation de la société. Et donc l'idée évidemment derrière, c'est de faire comprendre à quel point le fait qu'on soit à passer nos soirées sur Netflix, s'envoyer des messages sur Facebook, à échanger sur Instagram, ce que personnellement il peut m'arriver de faire, on est en train petit à petit de se décérébrer et de ne pas agir dans la société et notamment pas faire les changements qu'on souhaiterait voir dans la société. C'est assez bien résumé en deux bouquins. Le premier, celui qu'on connaît bien, c'est 1984 et Big Brother, qui présentait très rapidement, en gros, un État autoritaire qui surveille les gens et qui donc les met sous pression et leur dit « Toi, tu as dérivé et donc tu seras puni », avec Big Brother qui vous surveille partout en permanence. Et nous, notre théorie, c'est qu'en fait, on n'est pas vraiment dans 1984, c'est pas Big Brother, c'est plutôt Big Mother, avec une volonté, finalement, d'un cocon. On est dans notre cocon numérique. Et donc, ça, c'était très bien raconté par Aldous Huxley, qui a écrit Le meilleur des mondes, Brave New World. Et donc, Aldous Huxley, lui, décrivait finalement une société du divertissement qui faisait que les gens, donc vous, moi et tout le monde, nous n'arrivions plus à agir dans la société parce que nous étions distraits. Et distraits par la dernière télé-réalité, si vous êtes jeune, mais distraits potentiellement par le fait d'avoir été liké la dernière pétition ou je sais pas quoi. On est allé sur change.org, ah j'ai voté, c'est bon, j'ai fait mon acte militant, pouf, je peux aller me recoucher. Et du coup, comme on est distrait par ça, on n'agit plus sur la société. En gros, du pain et des jeux. Ce qui marchait il y a déjà plus de 2500 ans. Hein. Donc ça marche encore. Donc, je pourrais vous faire flipper en vous disant que voilà, le monde de 2028, c'est Skynet. Là, du coup, j'ai pris quelques films différents. Pour ceux qui n'auraient jamais vu Terminator, et j'imagine qu'il y en a dans la salle, je rappelle le pitch très rapidement. On est en 1992. Une boîte californienne qui s'appelle Cyberdyne, qui pourrait être l'équivalent de Google, invente un super processeur. Ce processeur permet de mettre en place une intelligence artificielle qui s'appelle Skynet. Skynet est implanté dans des robots comme celui-là en bas, mais qui peut aussi rappeler celui que vous avez vu tout à l'heure. Ces robots sont là pour aider les êtres humains, protéger les êtres humains, sauf qu'au bout d'un moment, Skynet en a marre de protéger les êtres humains et décide de zigouiller tous les êtres humains. Et donc ça arrive, c'est censé arriver en 2028. Donc voilà, ça pourrait être pour le côté parano. Honnêtement, je pense qu'en 2028, on n'en sera pas encore là. J'espère. On verra bien. Autre film qui montre bien que encore une fois, la science-fiction est un bon terreau pour moi pour imaginer des futurs dystopiques et qu'on pourrait craindre autour de ça. Bienvenue à Gattaca, c'est notamment sur la sélection génétique et l'eugénisme qui est pratiqué. Je vous le conseille, c'est un petit peu vieilli, mais c'est encore vraiment très sympa, avec Jude Law en plus dedans. Ce qui n'est pas désagréable. Du coup, Minority Report avec déjà plus désagréable Tom. mais bon, peu importe, on va pas parler des acteurs. Minority Report, là, c'est le fait d'avoir des humains augmentés qui sont capables de deviner les crimes avant qu'ils n'arrivent. Ça, c'est un grand rêve. de Google, de Facebook, etc. Ça, c'est déjà plus ou moins en place. Il me semble que les Anglais sont en train de tester ça. Donc c'est le predictive crime, donc le fait de pouvoir prédire les crimes. Et donc là, il y a déjà des systèmes d'intelligence artificielle qui sont en fonctionnement aujourd'hui aux États-Unis et en Angleterre, et qui, sur la base de petits détails, par exemple, est-ce que il y a eu plus de crimes ces derniers jours, donc il y a peut-être un point chaud qui est en train de se créer dans tel quartier, et ben du coup on va renforcer la police, les forces de police dans tel quartier pour éviter que ça déborde. On peut se dire que c'est bien, sauf qu'encore une fois, ça n'a pas été discuté démocratiquement. Et donc l'idée d'imaginer de pouvoir condamner un crime avant qu'il n'arrive, chose qui aurait été totalement impensable il y a quelques années. Je vais faire un peu dérive politique, mais je pense que vous voyez bien que dans la politique de justice mise en place par Emmanuel Macron, ça ne le choquerait pas forcément plus que ça. C'est potentiellement, si ça permet de réduire des crimes, peu importe l'aspect démocratique, allons-y. Bon, inévitable Matrix, où cette fois-ci, on se retrouve un peu dans le même scénario que dans Terminator, c'est-à-dire les machines ont pris le pouvoir et exploitent la chimie et la biologie des êtres humains pour générer sa propre puissance électrique et ses propres ressources. Évidemment, le tout avec du coup une réalité virtuelle qui est imposée aux êtres humains dès leur naissance. La réalité virtuelle est quelque chose d'extrêmement balbutiant encore aujourd'hui, mais petit à petit on voit bien que là aussi il y a des milliards qui sont investis des deux côtés. Là on en vient à des choses où je pense qu'on est un petit peu plus proche de la vérité. Typiquement donc R, qui est sorti il y a deux ans je crois, où un être humain tombe amoureux d'une intelligence artificielle. Je n'ai pas de preuve de ce que j'avance, mais je pense que ça arrive déjà à certaines personnes. Je pense qu'il y a des personnes qui sont socialement ou psychologiquement un petit peu en difficulté, qui peuvent aimer, mais avoir un vrai sentiment amoureux envers les assistants dont je vous parlais tout à l'heure, que ça soit Siri pour Apple, Alexa pour Amazon ou le Google Assistant, parce que c'est des objets numériques qui vont répondre à vos désirs, etc. Wall-E, alors vous allez me dire, bah, c'est quand même un peu déconnant, Wall-E a aucune chance d'arriver, déjà dessin animé, Walt Disney, etc. Où il reste, en fait, la planète a été tellement polluée qu'on a laissé quelques robots, dont Wall-E, pour nettoyer la planète. Et pendant que les humains s'empiffrent dans l'espace, en attendant de pouvoir réinvestir la Terre qui aura été nettoyée plusieurs centaines d'années plus tard. Et vous allez me dire, mais c'est pas le cas aujourd'hui. C'est exactement le rêve d'Elon Musk. Si Elon Musk, vous savez, donc Elon Musk, c'est le mec qui fait Tesla, donc les voitures quasi autonomes. C'est le mec qui fait The Boring Company, c'est-à-dire des tunnels entre New York et Washington qui vont aller à 700 km/h de façon à rallier deux villes hyper rapidement. C'est le mec qui fait, je ne sais plus comment s'appelle sa boîte, d'implants, SpaceX aussi, j'y viens à SpaceX. Mais il a aussi une boîte d'implants neuronaux qui permettrait d'éviter à terme les maladies de Parkinson, par exemple, et donc d'augmenter, d'activer des zones du cerveau. Et il fait aussi SpaceX. Et SpaceX, le but d'Elon Musk, c'est clairement de gagner de l'argent en vendant du satellite pas cher, parce qu'il fait des navettes qui sont capables de réatterrir, et donc ça coûte beaucoup moins cher. Mais il va vendre des satellites pas chers du tout. On parle, juste pour donner un ordre d'idée, aujourd'hui, envoyer un kilo dans l'espace, c'est environ 50 000 dollars. Pour envoyer un kilo dans l'espace, à terme, Elon Musk vise les 50 dollars dans quelques années, le kilo. Et donc, évidemment, ça permettrait de déployer des milliers de satellites pour pas cher, mais il veut gagner de l'argent avec ça, et avec Tesla, et avec Boring Company, etc. Pour faire quoi ? Pour aller sur Mars. Ouais. C'est Hyperloop, pardon, excuse-moi, oui, Boring Company, effectivement, oui, le mec il fait des lance-flammes aussi. Ouais, non, t'as tout à fait raison. Hyperloop, et du coup, voilà, c'est les réseaux de transport souterrain tels qu'imaginés. Et donc, Elon Musk est clairement transhumaniste, il imagine à un moment donné que la biologie de l'être humain est trop limitée et que c'est la machine qui doit l'aider. Et donc, on en arrive à un projet d'un type qui est milliardaire et qui dépense sans compter pour que on ait un plan B, et que ce plan B, ce soit Mars. Et donc, en gros, ce qui va arriver aux êtres humains qui resteront sur la Terre, bah, tant pis, t'as qu'à avoir suffisamment de pognon pour aller sur Mars. Hein, sinon, tu peux bien crever au milieu des robots qui viendront nettoyer. Enfin, dernier... Idiocratie que je vous conseille, c'est un film complètement barré. En gros, un type se fait congeler dans les années 2000 et quelques, un type moyen qui doit être réveillé quelques années plus tard, et en fait on le réveille 500 ans plus tard par accident, et la Terre est complètement partie en vrille. C'est-à-dire que les gens sont devenus débiles parce qu'ils ont été tellement assistés par les machines qu'ils n'apprenaient plus, ils n'allaient plus à l'école, ils devenaient complètement stupides, et à un moment donné les machines finissent par ne plus fonctionner parce que plus personne ne sait les réparer, et donc ils n'arrivent plus à faire pousser quoi que ce soit sur leur planète parce qu'ils les arrosent de Coca-Cola et que forcément ça pousse pas. Je vous conseille, pour déconner, ce film. Il nous reste moins de 20 minutes. Je vais aller très très vite sur la fin parce que là je vous ai présenté l'objectif aujourd'hui, c'était de vous parler de rentrer dans le détail un petit peu de ce capitalisme de surveillance et de ce qu'ils mettent en place. Après, évidemment, il y a des solutions. Dans les solutions, notamment, il y a ce que on peut proposer nous dans le milieu du logiciel libre, hein, pas nous nécessairement Framasoft. Mais en gros, voilà, quand on compare le budget de Google à celui de Framasoft, nous on a de quoi s'acheter deux pièces dans Paris, et eux ils peuvent racheter la Croatie et faire construire 15 000 km d'autoroute. Donc on est 350 000 fois plus petite que Google, mais on s'est dit qu'on allait essayer de faire quelque chose pour résoudre ça. Et donc en 2014 on a lancé une campagne qui s'appelle Dégooglisons Internet, et vous avez des flyers là que je vous encouragerai à prendre derrière, parce que je voulais vous montrer les différents services, mais on va pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Donc nous on est une association d'éducation populaire, et notre premier objet c'est de sensibiliser les gens, comme je viens de le faire aujourd'hui, à cette problématique, de démontrer que le logiciel libre est une solution possible à cette problématique, et d'essaimer, parce qu'on n'a pas du tout envie de devenir le Google du libre. Et donc on a fait ça en 2014. On avait dit que ça durerait 3 ans, donc on s'est arrêté en octobre 2017. On continue quand même, on n'a pas tout jeté, mais on a décidé de ralentir sur ce projet-là, qui nous a pris 3 ans et qui a été assez lourd à mettre en place. Mais en gros, on fait aujourd'hui plus d'une centaine d'interventions par an, comme celle que je suis en train de faire. On a réussi à faire passer un certain nombre de problématiques, notamment, vous pouvez vous dire, quand vous lisez GAFAM avec le M de Microsoft au lieu de juste GAFA, bah c'est que probablement c'est parce qu'on a réussi à faire passer cette notion-là, et de dire que Microsoft avait les mêmes ambitions que les autres. Et on a réussi à faire passer, pas nous tout seuls évidemment, mais cette idée que les GAFAM étaient potentiellement toxiques pour l'humanité. Bam, même pas peur. Donc ça, c'est fait. Sur la démonstration, on a fait donc 32 alternatives au projet de Google qui sont totalement libres, éthiques, décentralisées et solidaires. Sous-entendu, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est uniquement du logiciel libre, ce que je vous présentais au début. Éthique dans le sens où nous n'appliquons aucune publicité. Nous ne faisons aucune exploitation des données personnelles des fins commerciales. On ne fait pas d'exploitation d'ailleurs des données personnelles, sauf si à un moment donné on a besoin de retrouver, vous avez perdu votre mot de passe, ben, on est capable de vous dire comment aller le récupérer ou de vous le renvoyer en chiffré, c'est-à-dire nous évidemment on ne sait pas quel est votre mot de passe, mais on essaye d'être le plus éthique possible sur cette question-là. Et décentralisé, je vais en parler dans une seconde. Et donc on a réussi à montrer que le logiciel libre pouvait être une solution à cette problématique-là. Donc on propose 32 outils. Voilà, je vous les passe. Vous aurez un petit flyer à la fin. Voilà, du Drive. En gros, des alternatives à Google Maps, Dropbox, Slack, Minecraft, Google Groups, Evernote, Agenda, Forms, Skype, etc. J'en passe. Et d'autres. Et donc l'idée, c'était de prendre une trentaine de services existants. Je sais pas, Trello, Slack, etc. Et puis petit à petit proposer des alternatives. Ça a plutôt bien marché, voire très bien marché, vu qu'on a aujourd'hui en gros 400 000 personnes qui viennent tous les mois utiliser nos services. Sauf que nous on veut pas. Quelque part on a envie de dire mais partez de chez nous. Et donc on a monté un collectif qui s'appelle Chaton, pour collectif des hébergeurs alternatifs transparents, ouverts, neutres et solidaires. Vous noterez quand même qu'on est très fort en acronyme. Au moins on a cette qualité là. Et Chaton vise à proposer à d'autres structures qui peuvent être des entreprises, mais essentiellement actuellement, ce sont des associations. L'idée de ces associations est de faire un petit peu la même chose que ce qu'on fait nous. Il y en a certaines qui existaient d'ailleurs avant nous et qui le faisaient déjà ce genre de choses. Et l'idée, c'est de dire, mais il faut, si on veut lutter contre cette surveillance de masse et sur ces dérives démocratiques, si on veut lutter contre ça, on ne doit pas avoir un seul point d'entrée. On doit être résilient et pouvoir être capable d'agir en réseau et collectivement, et non pas chacun dans notre coin. Et donc ça, c'est en cours. Voilà, le collectif est sorti en 2016. Et ça avance. Aujourd'hui, on a une cinquantaine de structures. Et on a lancé en octobre 2017, donc c'est tout frais, une nouvelle feuille de route sur 3 ans qui s'appelle Contributopia, dont les objectifs sont de proposer des alternatives concrètes au capitalisme de surveillance, de mixer un petit peu plus les publics et surtout de faire comprendre que le Internet est un bien commun et qu'il faut en prendre soin. Donc voilà, on a plein de projets, je rentre pas dans le détail. Et le fond du fond de la chose pour nous, c'est elle est plus politique. Elle est de dire comment est-ce qu'on peut aller explorer d'autres continents qui aujourd'hui vous avez le continent voilà des enclosures, de l'individualisme, de la standardisation, la marchandisation, de la compétition. Donc ça c'est la société de consommation voire de surconsommation aujourd'hui. Donc on va dire une économie plutôt extractive où on va prendre quelque chose pour le revendre derrière. Et comment est-ce qu'on peut passer à ce que Bernard Stiegler, qui est un philosophe qui est déjà plusieurs fois je crois venu à Primevert, appelle la société de contribution, donc une société basée sur les communs et sur le collectif, et notamment avec chose qui peut faire peur, la collectivisation des moyens de production, ce qui doit vous rappeler certaines choses, mais duquel le logiciel libre n'a pas peur de dire qu'effectivement, en travaillant à plusieurs sur un logiciel, on ira plus loin. Voilà, donc en gros, l'idée, c'est de faire une convergence des buts, parce que convergence des luttes, apparemment, ça fait peur aux gens, avec le journalisme citoyen, les associations, les ONG, les mouvements écologistes, etc. Est-ce qu'on va y arriver ? Non. En tout cas, pas sans vous, puisque notre association est uniquement financée par des dons. Nous ne recevons pas de subventions. Et voilà. Donc, vous pouvez donner des dons. Merci. Il reste 5 grosses minutes pour les questions, 5-10 minutes. 20 minutes, pouf, j'aurais su, je serais allé moins vite. Merci.
Allez-y. Mais allez-y, madame, allez-y.
Alors, ce n'est pas pour dire du complot, mais est-ce que vous pensez que c'est possible, puisqu'ils arrivent chez nous par tous les moyens, est-ce qu'ils peuvent envoyer des images subliminales pour nous influencer à quoi que ce soit ? Est-ce que c'est déjà fait ? Est-ce qu'on pourra le détecter si ça se fait ?
À mon avis, ça n'est pas fait. À mon avis, ce sera détectable. Et à mon avis, ce ne serait pas du tout dans leur intérêt aujourd'hui. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver. Mais aujourd'hui, il y a déjà des tentatives, typiquement sur Facebook, ils ont plein d'autres moyens légaux de nous pousser à avoir de l'information. Et donc, faire de l'image subliminale, à mon avis, leur marché, il est basé sur le fait que les gens leur font confiance et qu'il n'y a pas d'alternative. Si petit à petit, on commence à mettre en place des alternatives et qu'ils perdent la confiance, ça reste des géants au pied d'argile. Alors, des géants au pied d'argile qui ont 100 milliards de dollars sur leur compte en banque. Hein, donc, c'est de l'argile bien pailletée d'or. Hein. Mais concrètement, aujourd'hui, non, pour moi, ça n'est pas le cas. Voilà. Voilà, il y a plein de questions partout. Je suis content que ça soit pas moi qui distribue le micro.
Bonjour et merci pour votre exposé. Vous avez parlé de l'exploitation des données des gens et qui n'étaient pas vraiment contrôlées aujourd'hui, mais que fait Informatique et Liberté ?
Ils sont très peu nombreux. La commission Informatique et Liberté est une commission qui a un pouvoir de sanction, mais dont il faut qu'elle soit saisie. Il faut que les individus ou les structures se mobilisent pour aller porter plainte. Les procédures prennent du temps. Concrètement, tout le monde parle de la CNIL, qui pour moi fait plutôt un bon boulot, mais qui est totalement sous-dimensionné par rapport au problème. C'est-à-dire que la CNIL faisait du très bon boulot en termes de résultats, considérant la puissance des GAFAM il y a 5 ou 10 ans. Seulement, l'évolution en 5 ans de Google et compagnie a pris tellement d'ampleur que l'institution CNIL, elle, elle n'a pas du tout suivi en termes de taille et de puissance. Et donc, vraiment, enfin, moi, j'ai un avis plutôt positif sur ce que peut faire la CNIL, mais ils n'ont absolument pas les moyens. C'est comme s'ils étaient 20 ou 40 face à des boîtes qui pèsent encore 100 milliards de dollars. Donc, concrètement, une des solutions, effectivement, une des options possibles, c'est que l'Europe renforce les dispositifs juridiques qui permettent de limiter la collecte, l'appropriation et l'exploitation des données personnelles. C'est plus ou moins ce qui va être le cas avec un dispositif qui s'appelle le RGPD, donc Règlement Général de Protection des Données, qui va être mis en place à partir du 25 mai ou 18 mai, je ne sais plus, 2018, c'est-à-dire demain, à peu de choses près. Le problème du RGPD, c'est que pour moi, ça va être la même chose qu'avec les lois d'accessibilité pour les personnes handicapées dans les bâtiments recevant du public. 5 ans après, les gens diront « oui, oui, je vais me mettre en conformité demain ». Et ça sera probablement pas le cas. Le RGPD va pas tout résoudre. Le RGPD, ça dit quoi ? Ça dit essentiellement qu'il faut un consentement éclairé de l'utilisateur quant à l'utilisation de ces données. Et donc concrètement, aujourd'hui, quand vous allez sur des sites, vous savez, vous cliquez sur OK pour virer. Est-ce que vous acceptez les cookies ? Tout le monde clique sur OK sans même le lire. L'idée du RGPD est d'essayer de faire ça non seulement pour les cookies, mais attention, là, nous allons prendre votre nom et votre adresse. Est-ce que vous êtes d'accord ? Là, nous allons prendre... Et du coup, moi, je suis assez persuadé que les GAFAM, et pas seulement, y compris des startups, hein, vont détourner le RGPD en disant « mais on va rendre ça tellement chiant qu'au bout d'un an, les gens, ils auront tellement marre de devoir cliquer 15 fois sur « OK, j'accepte, OK, je suis d'accord », que... ils vont dire « ouais, c'est bon, je laisse tomber, cette loi, elle est mauvaise ». Et donc, ça part d'un bon sentiment. Je pense que si on veut les calmer d'un point de vue juridique, qu'on commence déjà par leur faire payer leurs impôts. Ce serait clairement, il n'y a qu'une chose qui les touche, c'est le portefeuille. Hein. Donc, commençons déjà par leur faire payer leurs impôts à un taux normal, c'est-à-dire de ce que paye une entreprise classique en France, et on pourra en rediscuter. Mais voilà. D'autres.
Oui, j'étais très convaincu par votre exposé qui apportait beaucoup de précisions intéressantes. Concrètement, moi je pensais qu'on allait avoir des indications, des informations pour ne pas utiliser Google et autres. Moi je ne suis pas sur Facebook entre autres, mais j'utilise Google parce que je ne sais pas bien comment faire autrement. Et alors on nous a parlé dans un autre. On nous a parlé précédemment d'un accès à Internet par Tor. Comment est-ce que ça se passe ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ?
Alors, l'accès Internet par Tor ne dit pas... Tor, donc TOR, hein, c'est un logiciel et un protocole. Enfin, il y a un logiciel qui s'appelle notamment Tor Browser, donc qui est un navigateur via Tor. Tor permet de naviguer sur Internet de façon plus anonyme, pas totalement... Enfin, il y aurait beaucoup à dire sur jusqu'où on peut aller en termes d'anonymat sur Internet. Le principe de Tor, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des réseaux en oignon. Et donc, on va passer par différents réseaux. On va rebondir un petit peu comme dans les films ou les trucs qu'on voit à la télé. On n'arrive pas à suivre d'où vient la personne. Bah, c'est un petit peu ce principe-là. Et donc, aujourd'hui, essentiellement, c'est Tor qui est le mieux fichu pour ça. L'inconvénient de Tor, c'est qu'il faut donc des nœuds pour relayer les communications entre les différents ordinateurs, et que ces nœuds, ça coûte de l'argent à maintenir, et que donc il n'y en a pas forcément énormément, et que donc c'est plus lent. Et donc, pour beaucoup de gens, aller sur Tor, c'est effectivement une garantie, j'essaye d'être mesuré dans mes propos, c'est une assurance supplémentaire d'être moins repéré, d'être plus anonyme, et donc qu'on respecte plus la vie privée et l'intimité des gens, mais c'est aussi de l'inconfort. Et donc c'est à quel moment, finalement, tout ça, tout ce que je viens de vous dire se résume un petit peu à ça. C'est est-ce que je suis prêt à aller au boulot en voiture alors que je peux y aller en vélo? La réponse, pour certains, ça va être oui, pour d'autres, ça va être non, pour d'autres, ça va être une réponse compliquée parce que ça dépend s'il pleut, s'il fait froid, etc. Et donc, c'est comment est-ce qu'on met en balance le confort qui nous est apporté par les GAFAM avec des solutions alternatives qui, soyons clairs, encore une fois, nous, on a sorti donc 32 services. Sur ces 32 services, il y en a au moins une dizaine qu'on a dû faire nous-mêmes. Le reste, les 20 autres, étaient déjà développés par ailleurs, donc on les a repris, mis en place, on a remis une couche de peinture, on a fait de la documentation en français, on l'a proposé ouvert au public. Mais rien que pour faire ça, vous voyez qu'il faut du coup une association qui réussit à faire à peu près 20 000 euros de dons par mois, quasiment. Ce qui n'est pas donné à tout le monde, donc nous on y arrive, mais je ne peux pas dire que ça peut se faire au niveau mondial ou au niveau national. Et du coup, on a cette vraie difficulté de dire que il y a quand même une part d'inconfort quand nous on fait ça. Moi je prétends pas qu'on fait une on propose des alternatives, et Thor est une alternative, mais on peut pas dire que c'est des équivalents. Et donc pour toutes les personnes ici qui se posent la question de comment est-ce que je quitte Google, ma réponse, c'est le logiciel libre, les biens communs et le militantisme, y compris en dehors du numérique. Maintenant, quand j'ai dit ça, ça ne vous dit pas forcément beaucoup plus de choses. Parce que passer au logiciel libre, bah, ça peut réclamer des efforts. Ça veut dire que bah, vous pouvez aller sur l'espace numérique libre qui est à côté, qui fait là, pendant Primevert, toutes les 2 ou 3 heures, quasiment, il y a des ateliers sur comment passer au libre, etc. Mais ça va être entre humains. Et donc, ça va moins vite. Voilà, on est sur quelque chose de plus artisanal que moi, je revendique encore une fois quand je vous montrais rapidement ce schéma-là. On est sur quelque chose où, j'imagine la plupart d'entre vous qui êtes dans des associations et autres, voyez bien que fonctionner collectivement, c'est mieux, mais c'est parfois plus simple, parfois beaucoup plus compliqué. C'est pas simple de trouver une décision quand on est dans une association et qu'il faut faire réfléchir toute l'association sur comment est-ce qu'on... le logiciel libre, c'est le même problème. Tor, ça va être le même problème. Ça veut dire qu'il va falloir que vous alliez chercher... vous pouvez télécharger Tor Browser et aller sur Internet. Ça va fonctionner tout de suite. Mais par contre, pour moi, ça n'a pas de valeur tant que vous n'avez pas compris réellement ce qu'est Tor et comment ça fonctionne. Et ça, il faut qu'on puisse vous l'expliquer. Là, ça aurait pu être l'objet de la conf. Je ne suis pas du tout un spécialiste de Tor, mais du coup, ça aurait pu être l'objet d'une conférence, parce que autrement, vous utilisez des outils que vous ne comprenez pas, et on reste dans la société de consommation, où on va vous dire « Non, mais moi, j'ai un truc, c'est mieux, je le sors de ma poche, ça s'appelle Tor, allez-y, prenez, mangez-en tous. » Alors, dans notre démarche d'éducation populaire, c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est pouvoir vous dire « Vous avez un outil, mais il faut qu'on puisse aussi vous expliquer comment ça fonctionne. » Sinon, on a raté le truc. Moi, je rêve qu'à un moment donné, les gamins, ils sachent ce qui se passe physiquement, électroniquement, quand ils envoient une photo sur Snapchat ou sur Facebook. Et aujourd'hui, ils ne savent pas. Il y avait d'autres questions. Ouais.
Bonjour. J'avais donc une question par rapport à la loi renseignement. Parce que Framasoft peut choisir de ne pas revendre les données, mais par contre la loi renseignement peut demander à Framasoft de fournir les données. Alors je voulais savoir si c'était déjà arrivé et quelles sont les réactions envisagées si ça arrive.
Alors, oui, c'est pas la loi renseignement qui nous a demandé. On a reçu, c'est déjà arrivé plusieurs fois, des requêtes de police judiciaire. On a un service qui s'appelle Framapic, qui permet d'héberger des images gratuitement, librement, sans publicité. En gros, vous êtes parti en vacances, vous voulez partager un petit album photo et vous voulez envoyer ça par email. Évidemment, les pièces jointes sont trop grosses. Vous pouvez déposer vos photos sur Framapic pendant 6 mois, 1 an. Transmettre juste le lien de l'album dans votre mail. Donc du coup, votre mail pèse rien, ça part, et vous pouvez laisser vos photos. Et nous, on n'a pas possibilité de savoir, je peux pas, en allant même sur le disque dur de la machine qui héberge les photos, voir les photos, parce qu'elles sont chiffrées. Et il faut une clé de déchiffrement, etc. Or, il se trouve que, forcément, ça a été utilisé par des services, ça peut être utilisé pour de la pédophilie, de la pédopornographie, et ça peut être utilisé, et dans le cadre de la requête de police judiciaire qu'on a eue, ça avait été utilisé par des personnes qui revendaient des armes sur Internet. Et donc il y avait les photos, ils s'étaient servis de notre service pour mettre des photos d'armes, et donc la police nous avait contactés. C'est pas tant la loi renseignement, c'est la loi qui dit que lorsque tu es hébergeur de quelque chose, tu es co-responsable, c'est l'éditeur d'abord qui est responsable, et si l'éditeur n'est pas contactable, ça devient l'hébergeur qui se doit d'agir rapidement, en toute diligence, je crois, c'est le terme légal, pour supprimer les contenus. Donc, nous respectons la loi, nous ne sommes pas un service qui se prétend, qui défend nécessairement l'anonymat ou la protection de la vie privée à un niveau tel que les États ne pourraient pas y avoir accès. Concrètement, nous, on est un service de démonstration. Donc, quand la police vient nous voir, ce qui est arrivé très peu souvent, hein, ça fait 15 ans, moi, que je suis dans l'assaut, ça a dû nous arriver 3 fois en 15 ans, ça arrive, on répond à la requête de police judiciaire. Voilà. Si par contre on estime que ce qui n'est jamais arrivé, c'était fait à mauvais escient, par exemple on nous demanderait de filer le mail ou le numéro de téléphone de quelqu'un qui serait un militant de la COP21, tout simplement là on va faire jouer la clause légale et on va dire ok, mais à ce moment-là on saisit la CNCTR, la fameuse commission dont je te parlais tout à l'heure. Tu te prends 6 mois dans la vue, tranquille. Or là, on peut, contrairement aux États-Unis, on peut nous communiquer sur le fait que on a été saisi, qu'il y a une requête de justice qui demande un machin. Ce qui laisserait le temps à la personne en question, en 6 mois, de déménager, d'aller sur un autre, par exemple, un autre chaton, ce qui complexifierait les choses derrière. Donc concrètement, ne venez pas chez nous si vous êtes, si vous avez des activités, j'allais dire illégales. Je pense illégales, mais ça ne veut pas dire que je les soutiens pas moralement. Je pense par exemple aux zadistes. Les zadistes ont pas mal utilisé, notamment à Notre-Dame-des-Landes, et je pense à Nuit Debout aussi, qui a beaucoup utilisé nos services pendant que Nuit Debout était très actif. Ne venez pas chez nous pour ça. On sera toujours mieux que ce que propose Google, mais la meilleure façon de le faire, pour moi, c'est à ce moment-là de monter votre propre chaton et donc de faire partie, je vais y arriver, de faire partie de ce collectif, hop là, qui regroupe aujourd'hui 50 de personnes. Montez vos propres instances. Moi, je veux pas que vous veniez chez nous pour acheter un poisson, je veux que vous appreniez à pêcher. Voilà. Une dernière pour la route. 13h30. Enfin, moi, après, je m'en fiche, hein, je peux rester. Hein, c'est Vincent qui décidera.
ça fait 10 ans.
On a jusqu'à 45. Ok, j'étais pas au camp. Ok, vas-y.
Ça fait 10 ans que j'utilise le noyau Linux par rapport au Patriot Act. Est-ce que je peux toujours lui faire confiance? Sachant que Stallman ils sont tous aux États-Unis.
Ouais. Du coup, la question, le noyau Linux, je retraduis peut-être pour les gens qui ne sont pas au courant. Le noyau Linux, c'est le moteur de la voiture qui motorise les différentes versions de Linux, parce qu'il y en a beaucoup qui existent. Vous avez le moteur qui est ce qu'on appelle le noyau. Vous avez un ensemble d'outils, les roues, etc., qu'on appelle les outils GNU. GNU comme le GNU, hein, GNU, ça se prononce comme l'animal. Et donc, quand vous avez un noyau Linux et des outils, vous êtes en capacité de faire une voiture et la carrosserie derrière, ça, c'est ce qu'on appelle une distribution, je caricature, hein, mais du coup, vous avez Ubuntu, vous avez Mint, vous avez Mandriva, etc. Il y a plein de versions différentes qui existent. Et donc, la question de Stéphane, à qui je remercie encore pour le vidéo proche, c'est donc, est-ce qu'on peut faire confiance aujourd'hui dans ce noyau, sachant que ce noyau, aujourd'hui, qui est donc un bout de code qui est quand même relativement imposant en termes de taille et relativement complexe, enfin c'est même très complexe un noyau à regarder la recette de cuisine de ce noyau, c'est est-ce qu'on peut toujours lui faire confiance? Pour moi la réponse est oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ce noyau il est essentiellement développé par des entreprises, typiquement Red Hat, IBM et d'autres, qui sont pas des gens que je porte nécessairement beaucoup dans mon cœur, mais par contre le gros avantage du noyau, c'est qu'il est vu et toutes les modifications du noyau sont quand même regardées avec beaucoup d'attention aujourd'hui. Parce que ce noyau Linux, vous le retrouvez dans votre téléphone, vous le retrouvez dans votre box internet, vous le retrouvez dans votre téléviseur et potentiellement vous allez le retrouver dans votre voiture demain. Donc autant vous dire que tout le monde a intérêt à regarder quelles sont ces modifications et il y a de moins en moins de gens qui sont vraiment pointus pour regarder ces modifs, mais elles le font avec beaucoup plus d'attention et donc je suis relativement confiant dans le fait qu'il n'y ait pas de saloperie qui soit mise dans ce noyau. Et bizarre, enfin, les fautes qu'on trouve dans le noyau, elles se trouvent beaucoup plus. Elles ont été introduites il y a souvent des dizaines d'années. Et donc, j'imagine que ce qui posait ta question, c'est les deux failles dont il a été question là à Noël dernier. Il y a deux failles énormes qui ont été trouvées dans tous les noyaux qui font tourner notamment des puces Intel, et donc une faille qui s'appelle Spectre et une autre qui s'appelle Meltdown, je passe les détails, mais en gros ça veut dire qu'aujourd'hui il n'y a pas un matériel sur la planète qui est vraiment sûr. Mais c'est dû aux puces, c'est pas dû au noyau. C'est dû à la façon dont on va utiliser ce noyau pour faire fonctionner les puces. Donc aujourd'hui, le jour où on l'a appris, dans la semaine qui suivait, il y avait des patchs qui étaient sortis. Donc si vous avez un système à jour, pour moi ça va. Après, du coup, c'est derrière cette question qui paraît extrêmement technique, et j'espère que j'ai pas trop perdu de monde au passage, il y a une vraie question, c'est qui fait le matériel ? Et aujourd'hui, nous, militants du logiciel libre, on a un problème, c'est que les téléphones, par exemple, on ne sait pas aujourd'hui en faire des 100% libres. Pourquoi ? Parce que dans les téléphones, il y a une puce GSM, et que cette puce GSM, elle est brevetée, et que faire une puce GSM libre, c'est possible, mais extrêmement, extrêmement compliqué, et ça coûte évidemment très, très cher. Et quand on veut la produire, non plus à 1000 exemplaires, mais à 10 000 ou 100 000 ou 1 million d'exemplaires, il faut énormément de trésorerie, et du coup, ce n'est pas des associations qui vont financer ça. Il y a des projets de crowdfunding autour de ce type de choses. Donc, on sait faire des systèmes d'exploitation qui tournent sur les téléphones. Je crois qu'il y a un atelier à Lille sur comment fonctionne un téléphone et comment est-ce qu'on peut installer, par exemple, Lineage OS sur un téléphone qui est donc un système d'exploitation libre, qui vous vire Google, Android et vous pose autre chose. C'est possible, mais ça reste encore un petit peu compliqué. Ça fait péter votre garantie, hein, évidemment. Et derrière, le problème, c'est que, OK, mon système d'exploitation est libre, donc le logiciel qui fait tourner mon téléphone est libre. Par contre, le téléphone ne l'est pas. Et donc, je ne peux pas m'assurer qu'il n'y a pas derrière une porte dérobée qui aurait été mise par un tel ou par un autre. Par Intel, hein, la société Intel, pas Intel.
J'aurais aimé juste une précision quand tu dis il n'y a pas de matériel qui est sûr par rapport à tout ce que tu viens de dire, sûr par rapport à quoi en fait
C'est-à-dire que les. C'est pas du tout mon domaine, hein. Je pense qu'il y a des gens dans la salle qui sont bien plus pointus que moi pour répondre. Ce que fait le logiciel, c'est interroger le matériel. Le matériel, il va faire le calcul, ton logiciel, ton système d'exploitation, il est là pour commander le matériel. Mais si dans le matériel, tu as une porte dérobée qui te permet de dire bah, je prends possession finalement, je peux exécuter des fichiers ou je peux envoyer des fichiers directement sans que la personne qui fait tourner le logiciel ne le sache, ben, du coup, on est eu. Encore une fois, j'allais prendre une métaphore à la con, mais elle marche pas bien. Quand je te parlais du moteur, bah, c'est comme si certaines pièces de ce moteur étaient livrées avec de l'électronique dedans, mais de l'électronique qui vient d'ailleurs, quoi. Et donc ça, effectivement, c'est un vrai problème aujourd'hui, qu'on retrouve d'ailleurs dans les vraies voitures. Hein. Vous voyez bien, entre la 4L dont vous pouviez aller changer la bougie, et donc vous pouviez complètement démonter une 4L pour savoir comment c'était fait, et des Volkswagen dont on vous dit qu'elles ne polluent pas, mais parce que électroniquement il y a quelque chose qui vous dit que ça crache tant de CO2 au kilomètre, et qu'en fait, ben non, ce chiffre-là, il a été pipoté, et que personne n'avait pris la peine d'aller vérifier, c'est qu'on fait trop confiance aux machines. Et c'est un informaticien qui le dit. Hein.
Oui, j'étais avec Asus, bon, ça n'allait pas trop mal, enfin, j'étais avec tout ce monde-là. Mais là, je suis passé en Surface 4 et vraiment, il me saoule, il me gonfle, j'arrive pas à m'en servir. Mon sucre, enfin, j'ai plus Mozilla. Est-ce qu'avec Mozilla, on se protège un peu
Oui, avec en termes de navigateur, vous voulez dire ouais, pour moi, en termes de navigateur, si vous voulez des conseils, encore une fois, je vous renvoie vers la doc qu'on a là. Mais concrètement, aujourd'hui, pour moi, quelque chose qui est assez simple, c'est pas hyper simple, mais c'est assez simple, c'est d'utiliser GNU Linux sur vos ordinateurs, c'est de déconnecter au maximum les outils Google sur votre téléphone, c'est d'utiliser Firefox comme navigateur, de mettre en place un bloqueur de publicité, par exemple il y en a un qui s'appelle uBlock, que personnellement je trouve assez bien fichu, d'utiliser LibreOffice plutôt que Word, Excel et compagnie, et qu'est-ce que je pourrais vous donner comme dernier conseil ? Pardon ? Et YouNost, alors YouNost, c'est pas à la portée de tout le monde, je suis d'accord, je suis pour, mais du coup, là je parlais vraiment des choses grand public, voilà, si vous faites ça, et utilisez Quant comme moteur de recherche, je pourrais vous conseiller DuckDuckGo, je pourrais vous conseiller Framabee, qui est nous notre moteur, mais pour avoir rencontré plusieurs fois pour l'instant l'équipe qui a derrière Quant, ce sont pour moi aujourd'hui et pour l'instant, des gens qui on peut avoir confiance, donc comme moteur de recherche. Voilà, donc moteur de recherche Quant, ça s'écrit Q-W-A-N-T. Et vous pouvez utiliser aussi, il y a des alternatives, DuckDuckGo, hein, canard canard avant, pour ceux qui veulent la traduction, Startpage ou d'autres, Firefox, uBlock, LibreOffice, VLC, et puis Linux sur un ordinateur. Là, ma présentation, elle a été faite sous Linux. Vous voyez, on a changé de vidéoprojecteur, ça a bien fonctionné. Ça juste marche. Et là, vraiment, je vous renvoie vers les journées du logiciel libre à Lyon ou vers l'espace numérique libre qui se trouve juste de l'autre côté, pas juste de l'autre côté de la tente, mais de l'autre côté de la traverse, là-bas. Merci à tous et à toutes.